Vous êtes sur RTL.
Frédéric Guittard a été retrouvé sans vie à son domicile du 31 rue Albert Ménian au Mans. Cet homme de 51 ans avait été jusqu'en 2012 le directeur commercial et marketing de l'entreprise de charcuterie Prunier à Conneray.
Bonsoir, une histoire ce soir d'argent, de sexe et de vengeance dans la Sarthe. Qui a tué Frédéric Guittard? Qui en voulait à cet ancien directeur commercial d'une entreprise de rillettes au Mans? Au matin du 29 juin 2015, cet homme de 51 ans avait été retrouvé chez lui, tué de 3 balles de revolver, à moitié nu, attaché à un radiateur, le visage ensanglanté, une mise en scène machiavélique. Son épouse, avec qui il était en instance de divorce, va alors se retrouver au centre du dossier témoin, suspecte numéro 1, puis accusée. A-t-elle, oui ou non, commandité l'assassinat de son riche mari qui souhaitait la quitter? C'est à cette question que devront répondre lundi prochain à Angers les jurés de la cour d'assises d'appel du Maine-et-Loire. Un deuxième procès pour cette femme dans une affaire qui reste entourée de secrets et de chuchotements. Frédéric Guittard, une poule aux œufs d'or qui aurait été tuée pour son argent, ou un homme coincé dans un sombre scénario de chantage sexuel? Les réponses ce soir avec nos invités. L'affaire Frédéric Guittard, qui a tué l'ex-roi de la rillette? L'enquête ce soir de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
20h-21h,
l'heure du crime sur RTL.
20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Heure du crime consacrée ce soir à l'affaire Guittard. Cet ancien dirigeant d'une fabrique de rillettes au Mans n'avait pas d'ennemis. Qui donc l'a ainsi mis à mort à l'été 2015, à son domicile? Ce lundi 29 juin 2015, un peu après 16h30, Mélissa, l'une des filles de Frédéric Guittard, pénètre dans l'appartement de son père, 31 rue Albert Ménian, au Mans. La porte n'est curieusement pas verrouillée. Il faut la pousser avec insistance. Un meuble entrave l'ouverture. Mélissa accède enfin au salon. Elle aperçoit aussitôt des traces de sang sur les murs, des éclaboussures rougeâtres également sur les rideaux et les portes. La télévision est allumée. Au fond de la pièce se trouve un corps allongé sur le dos, posé sur un radiateur qui a été descellé du mur. L'homme a son pantalon baissé, il est torse nu, pieds nus, les bras et la face couverts de sang. Cet homme au visage rond, petites lunettes et crâne légèrement dégarni, c'est le père de Mélissa, Frédéric Guittard, 51 ans. Le légiste, le docteur Briand, puis ses collègues, les docteurs Joussel et Malbranck, comptent 4 orifices causés par un tir d'arme à feu. Un premier impact au front, le deuxième au-dessus de la nuque, les deux derniers au thorax. Un des tirs est à bout touchant, un autre à plus grande distance. Frédéric Guittard était en position assise quand on lui a tiré dessus. Une scène qui évoque une froide exécution. L'arme de poing utilisée pour ce règlement de compte est un Browning calibre 7,65. L'expert en balistique estime qu'aucun silencieux n'a été utilisé. Un coussin a pu peut-être être employé pour étouffer le bruit de la détonation. L'heure de la mort remonte au matin même, entre 8h et 9h30. Un crime stupéfiant. Frédéric Guittard ne faisait l'objet d'aucune menace. Il menait une vie tranquille et aisée depuis qu'il avait quitté 3 ans auparavant l'entreprise de rillettes qui l'employait comme directeur commercial. Guittard jouait depuis en bourse, possédait un patrimoine immobilier conséquent et pas moins de 6 comptes en banque d'un montant avoisinant les 300 000 euros. Ses amis décrivent un homme plutôt jovial, discret, amical. Il avait 3 enfants, séparé de son épouse Touria Rafjaoui depuis 2 ans, avec qui il était en procédure de divorce. La première audience chez le juge aux affaires familiales s'était déroulée 15 jours seulement avant l'assassinat. Bonsoir Josué Jambard.
Bonsoir Jean-Fonce.
Vous êtes chroniqueur judiciaire pour le journal Ouest-France, le grand quotidien de la région Ouest avec qui nous sommes ce soir en partenariat pour cette émission. Merci beaucoup Josué Jambard d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Je le disais, cette scène ressemble tout de même quand même à un carnage, on ne peut pas dire le contraire. On n'a laissé aucune chance à la victime.
Effectivement. Tout porte à croire que on a affaire à un travail de professionnel. On parlait tout à l'heure des trois orifices, hein, un à la poitrine, un effectivement dans la nuque et un au niveau de la tempe, qui sont intervenus visiblement dans cet ordre-là. En tout cas, c'est ce que laisse entendre le médecin légiste. Ce sont des zones vitales et ces zones vitales n'ont pas été choisies par hasard. On a le sentiment effectivement d'un travail très très préparé et professionnel.
Qui plus est, je l'ai dit, la victime est assise. Donc, oui. Ce qui montre bien qu'elle était sous emprise. Elle ne pouvait pas bouger, elle ne s'est pas défendue d'ailleurs.
C'est cela. Sur le dernier impact, en tout cas, elle est en position assise. Pour le premier impact, a priori, qui est celui de la poitrine, elle était en mouvement.
C'est la surprise.
C'est ça.
Doute.
Donc, on peut imaginer une entrée, une intrusion dans le logement, le coup de feu et la victime qui est encore en mouvement, en tout cas, essaie de s'échapper peut-être.
Alors, dites-nous, là, il faut quand même qu'on rentre dans cette histoire. Qui est la victime, justement, Frédéric Guittard ?
Ah, effectivement, comme il a été très bien décrit, c'est un directeur commercial et marketing donc chez Prunier. Prunier, c'est une boîte effectivement qui fait de la rillette, hein, un traiteur. C'est une boîte qui marche très très bien. On peut encore trouver effectivement un chiffre d'affaires là pour l'année 2019 qui doit avoisiner, je crois, les 30 millions d'euros. Donc ça tourne très très bien. Et effectivement, il a travaillé pendant quelques années dans cette société. Jusqu'à en partir avec un petit pactole.
C'est voilà. Ça, il y a eu un arrangement à l'amiable et puis il est parti, d'ailleurs ça n'a pas fait de bruit. C'est pas quelqu'un qui a des ennemis
Alors a priori, on lui connaît pas d'ennemis. Maintenant, il a aussi une face un peu cachée. C'est quelqu'un aussi qui vit une vie.
On va y venir et longuement développer cet aspect parce que c'est important dans cette histoire. On va s'apercevoir qu'effectivement, il y a cette face immergée du personnage qui va être très intéressante et très intrigante. Alors, on revient un petit peu sur la scène de crime avec vous, Josué Jeanbart. Pas de trace ADN exogène, je veux dire, pas de trace ADN autre que celle de la victime ?
Uniquement la victime, le sang de la victime uniquement. Ce que l'on sait par la suite, c'est qu'on a trouvé, notamment sur l'ordinateur Apple de Frédéric Guittard, qui a été manipulé sur la scène de crime, des traces qui laissent à penser qu'on a utilisé des gants. Une trace de gants. Donc effectivement, encore une fois...
Trace de latex, c'est ça ?
Oui, on sent bien qu'on a affaire à des gens qui maîtrisaient leur sujet, là.
C'est ça, ouais. Donc, quasiment des professionnels. On pourrait dire que c'est...
Ça ressemble à du travail de professionnel.
Voilà, ça ressemble à du travail de professionnel. La porte, alors il y a quelque chose de curieux aussi dans cette scène de crime, c'est que la porte n'a pas été forcée. Non. Donc, on peut supposer, et c'est toujours très intriguant, c'est toujours le mystère de la chambre jaune, on peut supposer que la victime a ouvert la porte à quelqu'un qu'elle connaissait.
Alors, on peut l'imaginer, effectivement que les gens ont en tout cas inspiré confiance à la victime qui ne s'est pas méfiée. Tout à fait.
Est-ce que, et ça va apparaître ensuite dans la procédure, un dossier que vous connaissez par cœur, est-ce que le corps a été déplacé, Josué Jeanbart ?
Alors, oui, il y a eu des déplacements. On peut d'ores et déjà dire, d'ailleurs, que le corps a été déplacé après la mort. Ce qui laisse penser justement que l'endroit où on le retrouve et la manière dont il est disposé sur ce radiateur, hein, avec le torse nu, effectivement le pantalon baissé et les pieds nus, est une mise en scène. Une mise en scène qui a été réalisée donc alors que Frédéric Guittard était déjà décédé.
Comment expliquer ce radiateur, etc. Vraiment, on a voulu créer un spectacle, une espèce de mise en scène blanc.
Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Oui.
Que disent les enquêteurs à ce moment-là, au début de l'enquête? Ils sont un peu perdus. Je crois que c'est la PJ d'Angers qui s'occupe de ça.
Il y a beaucoup. Oui, c'est la police judiciaire qui, avec la sûreté départementale de la Sarthe, hein, prennent en charge l'enquête. Mais la PJ est très vite effectivement sur le coup. Et c'est vrai que au départ, il y a beaucoup de points d'interrogation, notamment sur cette scène où on ne comprend pas très bien ce qu'on a voulu faire, ce qu'on a voulu, pourquoi on l'a présenté dans ces conditions. Voilà.
Les enquêteurs vont s'intéresser de beaucoup plus près à la victime, à sa vie intime qui paraît agitée, à cette procédure de divorce qui serait difficile, quelques indices troublants, mais rien à ce stade qui ne semble justifier une telle exécution. L'affaire Frédéric Guittard, qui en voulait à cet homme tranquille ? C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime en partenariat avec le journal Ouest-France. A tout de suite sur RTL.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du crime. RTL. 20h, 20h-21h,
l'heure du crime sur RTL.
Et ce soir, l'affaire Frédéric Guittard dans l'heure du crime, l'ex-directeur commercial d'une fabrique de rillettes assassinée au Mans. Une exécution sanglante, la police est à la recherche d'un mobile. Dans les semaines qui suivent l'assassinat de Frédéric Guittard, les enquêteurs de la PJ d'Angers travaillent avec acharnement sur la personnalité de la victime. Il est avéré que cet homme avait une vie intime plutôt débridée. Il avait trompé son épouse, Touria, quand il vivait encore avec elle. Depuis leur séparation, il avait plusieurs maîtresses avec qui il partageait des pratiques sexuelles libertines, sorties dans des clubs échangistes et triolisme des parties à trois. Un mari jaloux aurait-il voulu se venger ? Cette piste est explorée, mais rapidement éliminée. Les maîtresses entendues évoquent un homme sympathique et généreux. Presque toutes présentent en revanche une épouse, Touria Rafjaoui, sous un mauvais jour. Possessive, jalouse, dépressive et même alcoolique. L'un de ces témoignages laisse entendre que Touria Rafjaoui aurait menacé son mari. Touria Rafjaoui est entendue à plusieurs reprises par les enquêteurs, 5 fois au total. L'épouse décrit un divorce difficile. La PJ n'exclut pas que ce désamour soit un arrière-plan de cet assassinat. Touria Rafjaoui bascule peu à peu dans le camp des suspects, d'autant plus que dans ses premières déclarations, elle a omis de dire que la veille du crime, elle avait reçu chez elle un couple d'amis venus de Corse, reparti le lundi 29 juin, le jour de la découverte du corps. Ces deux visiteurs de Touria Rafjaoui s'appellent Jean-François Ornano et Magali Pinardo, 43 et 42 ans tous deux, vivent en Corse à Ajaccio où ils s'apprêtent à l'époque à ouvrir un restaurant. Magali est une amie très proche de Touria Rafjaoui. Les deux femmes sont en contact téléphonique fréquent. Touria Rafjaoui reconnaît avoir reçu Magali et son compagnon Jean-François. Le couple, dit-elle, était de passage dans la région pour aller voir une autre amie. Elle leur a alors simplement proposé de les héberger. L'épouse ne nie pas avoir discuté avec Magali, sa confidente et copine, de ses déboires sentimentaux. Selon elle, Jean-François Ornano lui aurait alors indiqué que son mari méritait une bonne correction. Une punition aurait alors été évoquée. Touria Rafjaoui est finalement placée en garde à vue. Elle affirme n'avoir jamais demandé qu'on tue son mari. Elle n'a joué aucun rôle dans ce drame sordide. Josué Jean Barre, chroniqueur judiciaire au journal Ouest France. On vous retrouve ce soir et vous êtes dans le studio avec nous dans l'heure du crime. Qui est l'épouse de la victime, Touria Rafjaoui?
Alors, Touria Rafjaoui, c'est une femme qui est assez expressive, assez volubile. On a pu la voir à plusieurs reprises, effectivement, lors des audiences devant la chambre de l'instruction. C'est une femme qui a vécu, visiblement, une vie de couple assez... on va dire assez paisible, en tout cas, sans doute, y trouvait-elle son
deux, compte. Deux enfants, c'est ça?
Oui, deux, c'est ça, deux enfants ensemble. Deux filles, hein, c'est, ouais. Lui a une fille.
Il avait eu un premier mariage.
C'est ça, hein, avant, ouais. Effectivement. Mais ils ont eu deux enfants ensemble, deux filles, dont l'une d'ailleurs à 19 ans à l'époque des faits, c'est celle qui retrouve.
C'est elle qui a retrouvé le
tout
corps.
Tout à fait, tout à fait. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui visiblement a l'air d'être assez passionné, qui inspire aussi la confiance. Ses belles-sœurs la considéraient d'ailleurs comme sa sœur, hein, comme leur propre sœur. On sent bien que c'est quelqu'un qui est capable d'attirer assez la sympathie, en tout cas. Ouais,
ouais. Et puis il y a ce divorce qui, oui, vient tout casser, finalement, oui, tout bouleverser dans cette vie de famille, comme c'est souvent le cas. Et puis là effectivement, et l'enquête va le montrer, on s'aperçoit que effectivement la victime a une vie, ce que je disais, sexuelle, plutôt débridée, plutôt... libéré, si je puis dire.
C'est ça, c'est le moment un peu des révélations, c'est-à-dire que on sent que dans le cadre de cette séparation, Touria Rafjaoui commence à vider son sac, à raconter effectivement une vie sexuelle assez débridée. On parle de clubs échangistes, hein, de triolisme, on parle de pratiques sexuelles, en tout cas auxquelles elle a pu être associée. Et le moment de la séparation est le moment où elle décide en fait de crever cet abcès, visiblement, en tout cas quelque chose qu'elle ne vit pas très bien, et de commencer à se confier, y compris à ses belles-sœurs, ce qui surprend un peu d'ailleurs.
D'accord, c'est là tout le monde va découvrir qu'effectivement il y avait une face cachée dans ce couple et que personne ne soupçonnait. On continue donc avec les acteurs effectivement qui entrent en scène. Alors il y a l'apparition de ce fameux couple qui arrive de Corse, Jean-François Ornano, Magali Pinardo. Ils sont ensemble, etc. C'est un couple, ils sont amis, je viens de le dire, hein, avec la femme de la victime. Qu'est-ce qu'ils vont dire au fil des interrogatoires?
Alors, il y a beaucoup de variations, en fait, dans leur déclaration.
Déjà au début, là, ils arrivent et ils racontent quoi?
Alors, quand ils sont interpellés au mois de janvier, effectivement, dans un premier temps, alors les versions
vont varier.
Vont varier, c'est ça. Et donc ils vont commencer effectivement par plus ou moins expliquer que alors qu'ils n'étaient pas là, que et puis au fur et à mesure, effectivement, comme la téléphonie les confond, ils sont bien obligés de reconnaître effectivement qu'ils étaient présents.
Mais parce qu'il faut dire que le téléphone de Jean-François Ornano match avec celui de la victime. Hein, on retrouve. Ils sont dans le même secteur.
C'est ça. Jean-François Ornano, Touria Rafjaoui et Magali Pinardo, donc ont bornes au même endroit, devant la résidence en fait de Frédéric Guittard, ce qui laisse entendre effectivement qu'ils étaient présents à ce moment-là. Et malgré effectivement les dénégations du départ, ils sont bien obligés de reconnaître qu'ils étaient bien présents devant cet immeuble juste avant son décès.
Et ils vont finir par dire qu'ils sont rentrés dans l'immeuble. C'est ça. Et la première version. Et laquelle, en gros, on venait chercher des documents, c'est ça? Expliquez-nous.
Oui. En fait, il est question, dans le cadre effectivement de ces relations un peu particulières de Frédéric Guittard, il est question de photos que Frédéric Guittard aurait pu garder, évoquant justement ces relations libertines qui impliquaient effectivement Touria Rafjaoui.
D'accord, donc... Je résume, Jean-Bois, parce que c'est un moment important dans l'enquête. Le mari aurait gardé des photos plutôt dénudées, et en tout cas à caractère sexuel de son épouse, et celle-ci se serait peut-être inquiétée de ces photos et aurait en quelque sorte mandaté ce couple pour aller les chercher sur son ordinateur, c'est bien ça?
Tout à fait.
Au début, on est dans cette logique-là.
En tout cas, et les versions sont tellement, elles varient tellement, elles sont tellement contradictoires. Effectivement, on peut retenir cette version comme étant celle qui est acquise au dossier. Au début.
Alors, il y a un ordinateur d'ailleurs va disparaître. Hein. Oui. On sait que donc là, il y a aussi une trace. Effectivement, on est venu chercher ça, peut-être des photos, des documents, une clé USB, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'informatique intéressée. Les personnes qui sont entrées dans l'appartement.
Oui, d'accord. Tout à fait. Comme je le disais tout à l'heure, un ordinateur disparaît, puis on retrouve également des traces sur l'ordinateur Apple, hein, des traces de sang. Il y a eu des manipulations. Il y a eu un ordinateur qui a été débranché de manière inopinée à un moment où on peut considérer que sans doute Frédéric Guittard était déjà mort, ce qui veut dire en gros qu'on a cherché des documents, on a cherché des choses sur ces ordinateurs, sur un disque dur également. Hein, on peut dater tout ça.
Alors il y a une autre hypothèse qui va effectivement intéresser les policiers, c'est celle de l'argent. Puisqu'ils sont en procédure de divorce, ça se passe pas très bien. Hein.
Alors, je pense qu'il y a une revendication un peu ancienne de la part de Touria Rafjaoui de ce point de vue-là. Frédéric Guittard, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, est parti avec un petit pactole de chez Prunier. Hein. Mmh. Et Touria Rafjaoui, c'est très très bien qu'il a beaucoup d'argent, il a des biens immobiliers, il a beaucoup d'argent sur ses six comptes en banque, etc. Et je pense qu'effectivement, dans le moment de la séparation, elle espère en tout cas récupérer quelque chose. Il est question à un moment donné d'une maison qu'il pourrait lui laisser. Il est question donc de biens immobiliers, d'argent. Enfin, je pense que ça a pu jouer un rôle, mais en particulier au moment de la séparation.
C'est ça.
Ça semble
un
très clair.
Un rôle de catalyseur peut-être.
Oui.
Dans quelque concoction.
C'est ça, de crispation en tout cas entre les deux, hein, qui a pu effectivement faire monter les enchères.
Et qui plus est, cette épouse, je l'ai dit rapidement, mais les maîtresses de son mari ne sont pas tendres avec elle. Alors ce sont effectivement les maîtresses de son mari qui parlent. Sujet à caution, certes, mais elles la décrivent sous un très mauvais jour, cette femme.
Alors oui, effectivement, par la suite, pendant l'enquête, on découvre, en entendant un certain nombre de ces personnes, que Touria Rafjaoui est décrite un peu comme une manipulatrice. Elle est décrite effectivement comme quelqu'un qui peut se servir de ses enfants. C'est vrai que le tableau n'est pas très très beau. Quoi.
Le fait est que Touria Rafjaoui, Jean-François Ornano et Magali Pinardo sont mis en examen à la mi-juin 2016, 7 mois après l'assassinat. Les versions des uns et des autres vont varier et un autre drame va émailler les investigations. L'affaire Frédéric Guittard, un complot a-t-il entraîné sa mort? C'est ce soir l'enquête de l'heure du crime, on se retrouve tout de suite sur RTL.
20h, 21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et ce soir, dans l'heure du crime, nous revenons sur l'affaire Frédéric Guittard, un ancien directeur commercial du Mans, tué chez lui. Son épouse, avec qui il était en instance de divorce, et un couple sont mis en examen et écroués. Les juges du Mans doivent reconstituer le pacte mortel qui aurait uni Touria Rafjaoui, l'épouse de la victime, et le couple d'amis venus spécialement de Corse jusqu'au Mans, Jean-François Ornano, Magali Pinardot. Touria Rafjaoui confirme qu'elle a confié ses malheurs conjugaux, son divorce infernal, à son amie Magali. Les choses seraient alors allées trop loin et bien au-delà de sa volonté, selon elle. Sans qu'elle ne demande rien, le couple aurait pris l'initiative de se rendre chez Frédéric Guittard pour la venger. Jean-François Ornano se serait ainsi apparé du badge d'accès et d'un trousseau de clés permettant l'accès à l'appartement du mari. Touria Rafjaoui se dit innocente. Elle écrit alors plusieurs lettres à ses deux filles dans lesquelles elle jure qu'elle n'a jamais voulu la mort de leur père et qu'elle ne l'a pas tué. La version de Touria Rafjaoui ne cadre pas avec les déclarations du couple d'amis corses. Eux indiquent que l'épouse voulait en finir avec son mari. Magali Pinardot raconte que pour rendre service à son amie, elle s'est rendue chez la victime en compagnie de Jean-François Ornano, mais pas dans le but de tuer, juste pour intimider le mari. Sur place, elle lui aurait demandé d'effacer de son ordinateur tous les fichiers qui pourraient porter préjudice à Touria. Il aurait fait la sourde oreille. Magali dit avoir tiré deux coups de feu en son direction, mais certifie que Frédéric Guittard était vivant lors de leur départ. Jean-François Ornano et Magali Pinardot, qui ont emporté l'ordinateur de la victime, vont s'attribuer tour à tour la paternité du crime, un jeu de rôle destiné à se dédouaner mutuellement. Jean-François Ornano expliquera avoir été piégé par Touria Rafjaoui, épouse qui les aurait poussés à commettre l'irréparable. Le 28 janvier 2019, 2 ans et demi après le crime de la rue Albert-Ménian, Touria Rafjaoui, épouse de Frédéric Guittard, et ses amis corses doivent comparaître devant la cour d'assises de la Sarthe. Lors de l'instruction, les trois accusés ont multiplié les demandes de remise en liberté sans succès. Seule Magali Pinardot a été placée sous bracelet électronique. État de santé incompatible avec la détention. À l'ouverture des débats, cette femme n'est pas là. Son corps sans vie a été découvert à son domicile à Ajaccio le 17 janvier. Sans doute un suicide. Elle était un personnage clé dans cette affaire. Josué et Jean Barre, on vous retrouve dans l'heure du crime. Je rappelle que vous êtes chroniqueur judiciaire au journal Ouest France, notre partenaire ce soir dans cette heure du crime. C'est vous d'ailleurs qui avez révélé, je crois, dans votre journal ce suicide de ce témoin extrêmement important, puisque Magali Pinardot, eh ben, elle était vraiment la confidente de la femme de la victime.
Effectivement, c'est une amie de longue date de Touria Rafjaoui. Elles se connaissent et elles se confient l'une à l'autre. Dans les derniers temps, Touria Rafjaoui raconte ses malheurs à Magali Pinardot. Elle apprend un témoin assez régulièrement. Et oui, elles se connaissent depuis très très longtemps.
Ouais. Donc là, il y a une pièce du puzzle qui est manquante. Et qui est une pièce importante, on est d'accord?
Oui, oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a dans ce trio donc l'ex-épouse, en tout cas celle qui était en instance de divorce,
ouais, tout à fait.
L'ami et donc le compagnon de l'ami. Et dans ce trio-là, la détermination des rôles des uns et des autres est assez compliquée. Si le trait d'union, finalement, entre deux personnes qui n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre, qui ne se connaissaient quasiment pas avant de se rencontrer à cette occasion, manque à ce puzzle, en fait, c'est compliqué, effectivement, de comprendre ce qui a pu se passer concrètement.
Puisque tout le monde se rejette un petit peu la responsabilité,
oui.
Le couple, je l'ai dit, sans doute pour essayer d'épargner l'un et l'autre, enfin, de s'épargner mutuellement, sans doute par amour d'ailleurs, hein, pour essayer de s'entraider. Et puis évidemment la veuve qui elle reste sur ses positions, je n'ai rien fait. Comment se passe ce premier procès, Josué Jean Barre?
Alors lors de ce premier procès, justement parce que les déclarations étaient très très variables, les deux protagonistes restants se rejettent effectivement la responsabilité. Et la chose un peu particulière qui se déroule pendant ce procès, c'est que alors que Jean-François Ornano effectivement avait plutôt tendance à assumer pour essayer de dédouaner Magali Pinardot de l'assassinat, il la charge cette fois-ci. Il indique finalement...
Il charge la défunte.
C'est ça.
Hein, il cherche une femme qui est morte.
C'est ça. Et donc, évidemment, elle ne peut pas se défendre.
Bien sûr. Voilà. Elle ne peut pas répondre, bien
sûr. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est comme ça, effectivement, que ce procès aboutit, je pense, à la décision de la cour d'assises, hein, qui décide de condamner donc Touria Rajaoui à 20 ans de réclusion criminelle et Jean-François Ornano à 15 ans de réclusion criminelle.
C'est ça. Et donc, il va y avoir tout de même. Alors, effectivement, c'est très compliqué pour les policiers d'établir les responsabilités des uns et des autres, parce que tout le monde, encore une fois, se renvoie la balle. Mais tout de même, il y a des éléments matériels. Et puis il y a des éléments troublants. Parlez-nous un petit peu du témoignage de la fille de la victime, l'une des deux filles, Mélissa, qui devait se trouver avec son père le jour où il a été tué. Et curieusement, elle n'était pas là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, ce qui se passe, c'est que, de mémoire, les faits se déroulent le 29 juin, un lundi. C'est un lundi matin. Et le week-end précédent, donc, Mélissa devait passer le week-end chez son père. C'était prévu comme ça. Et au dernier moment, elle va dîner chez sa mère et elle reste dormir là-bas. Mais je crois que le fait de rester, ça n'était pas voulu de sa part. En fait, et c'est au dossier, on sait qu'elle a été... qu'elle a pris des médicaments, en tout cas qu'on lui a donné des médicaments, qu'ils l'ont fait dormir, donc, et elle est restée malgré elle, finalement, au domicile de Touria Rajaoui, de sa mère.
Alors ça, c'est très important. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on l'aurait droguée spécialement pour qu'elle ne vienne pas entraver une opération qui était préparée, hein. En tout cas, c'est la conclusion des enquêteurs.
C'est la conclusion des enquêteurs, c'est la conclusion aussi du juge d'instruction, qui considère effectivement que ce geste-là marque le fait qu'on a voulu... la tenir éloignée, en tout cas, du domicile de son père au moment où se passait effectivement l'assassinat.
Après 9 jours de procès, l'avocat général demande une punition lourde contre les deux accusés. Il déclare que la venue du couple corse au Mans est la preuve d'une punition. Touria Rajaoui est condamné à 20 ans de prison, 15 ans pour Jean-François Ornano. L'affaire Frédéric Guittard, un assassinat sur commande. Un deuxième procès pour trancher l'enquête de l'heure du crime ce soir sur RTL et on se retrouve tout de suite.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Heure du crime avec ce soir au programme l'affaire Frédéric Guittard. Un homme aisé en instance de divorce, assassiné. Son épouse a été condamnée à 20 ans de détention en première instance. Tout va se jouer en appel. La semaine prochaine, dès le lundi 7 décembre et pendant 15 jours, Touria Rajaoui va comparaître devant la cour d'assises d'appel du Maine-et-Loire à Angers. Elle sera seule dans le box des accusés. Jean-François Ornano, condamné à 15 ans en première instance pour le crime, n'a pas fait appel. Il sera toutefois convoqué à l'audience en qualité de témoin. L'ex-épouse de Frédéric Guittard n'a pas obtenu une mise en liberté avant son procès. Devant la chambre de l'instruction, elle avait dit pourtant souffrir de lombalgies et de violents maux de tête. « Je suis à bout de force, épuisé. Cela fait 5 ans et 4 mois que je clame mon innocence. J'ai toujours assumé mes responsabilités. » Mais je ne peux pas vivre avec cette accusation-là, c'est l'ultime combat de ma vie. Ultime combat et ultime chance de renverser l'accusation. Touria Rajaoui, qui selon un expert psychiatre aurait un discours égocentré, dénué, je cite, de toute culpabilité et de compassion pour la victime, mais par ailleurs considérée comme une femme bienveillante, à l'autre et ouverte, a toujours affirmé qu'elle ne voulait pas la mort de son mari. Elle reste étrangère, dit-il, à cet acte. Bonsoir, maître Sylvie Novakovic.
Bonsoir, Jean-Alphonse.
Merci beaucoup, maître, de nous avoir rejoint ce soir dans l'heure du crime. Vous êtes l'avocate de Touria Rajaoui. Je précise que ce n'était pas vous qui assurez la défense lors du premier procès. Quel est l'état d'esprit de votre cliente à quelques jours seulement de son deuxième procès ?
Alors, ma cliente est très angoissée, mais combattante. Elle espère que la justice sera rendue et que son innocence sera reconnue. Il faut savoir qu'elle n'a jamais voulu que son mari meure et elle n'y avait absolument aucun intérêt. Je m'explique. Je vous rappelle qu'elle était en procédure de divorce et elle devait obtenir une énorme prestation compensatoire et par son décès, elle ne veut plus l'obtenir. Donc de toute façon, il n'y a pas de mobile dans ce dossier, quel qu'il soit d'ailleurs. Tous les éléments du dossier démontrent qu'elle n'avait pas le mobile, aucune raison de vouloir son décès.
Donc, ce que vous nous dites, Maître Novakovic, et j'allais vous poser la question, qu'on soit clair, selon vous, le mobile de l'argent ne tient pas ?
Avec son décès, avec le décès de son mari, bien évidemment, il ne peut rien toucher, absolument rien. Donc, à ce niveau-là, malheureusement, eh bien, il va de soi que, bien sûr, il ne peut plus rien espérer à ce niveau-là. Donc, je ne vois pas comment on pourrait imaginer qu'elle puisse avoir le moindre mobile le concernant.
Alors, autre mobile, Maître, parfois évoqué par les enquêteurs, c'est la divulgation de photos intimes de son épouse que possédait Frédéric Guittard. Photos, documents, vidéos, je ne sais pas, mais qui auraient motivé cette expédition punitive.
Moi qui traite depuis plus de 30 ans les divorces, si vous voulez, ce genre de faits, on les voit tous les jours. C'est pas pour ça qu'on va tuer le conjoint. Donc, bien évidemment, ça ne justifierait pas de vouloir la mort de l'autre. Donc, bien évidemment, ce motif est totalement exclu.
Alors, totalement exclu. Mais alors, pourquoi, selon vous, Maître Novakovic, pourquoi votre cliente a-t-elle été accusée et condamnée 20 ans, je le rappelle, en première instance?
Toujours par rapport à mon expérience en maquette spécialiste en droit pénal, je peux vous assurer que, malheureusement, on trouve toujours... c'est toujours la simplicité et la facilité qui font accuser une personne à tort. Et si vous voulez, regardez dans l'affaire Omar Haddad, on a trouvé l'arme facile, on dit « Ah, il y a marqué Omar m'a tué, donc c'est lui ». Donc, si vous voulez, c'est très facile de considérer une personne coupable quand on n'a pas envie de chercher plus loin. Donc, bien évidemment, dans le dossier, il n'y a rien qui peut faire penser qu'elle puisse avoir imaginé vouloir le décès de son mari.
Alors, s'il n'y a rien, je suppose, Maître, que vous allez plaider l'acquittement.
L'acquittement sera réclamé pour ma cliente, dans la mesure où elle a toujours clamé son innocence depuis le début. Et bien sûr, j'en suis également convaincue.
Alors, Josué Jambard, je reviens vers vous. Vous venez d'écouter Maître Novakovic. C'est pas une surprise, elle va demander l'acquittement pour sa cliente. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce procès? Est-ce qu'on peut attendre des surprises? Qu'est-ce qui peut se passer?
Alors, déjà, effectivement, l'absence de Jean-François Ornano va laisser encore une place supplémentaire vide, puisque déjà, celle de Magali Pinardo n'était pas occupée au premier procès. Maintenant, on a un deuxième protagoniste de cette histoire qui était présent sur la scène de crime, qui ne sera pas là. Enfin, en tout cas, pas en tant qu'en qualité d'accusé. Il est assez manifeste qu'il y a dans la démarche de Touria Rajaoui quelque chose de l'ordre effectivement de quelqu'un qui clame son innocence. Je pense aussi que le fait qu'elle ait écopé de 20 ans de réclusion criminelle, c'est-à-dire la peine la plus haute qui a été prononcée dans cette affaire, doit être aussi gênante pour elle. Puisque, a priori, à minima, ce qu'elle reconnaît, c'est qu'elle a joué un rôle, c'est-à-dire le rôle de réunir ce couple, de confier le badge d'entrée de l'immeuble. Elle était présente devant l'immeuble, la salle, la téléphonie le prouve, et donc on sait très bien qu'elle a eu une participation dans au moins le déplacement de ce couple jusqu'à l'appartement donc de Frédéric Guittard. Et donc à partir de là, la question qui demeure est de savoir qu'est-ce que ce couple allait faire dans l'appartement. Ce qu'elle prétend effectivement, c'est que elle les a envoyés pour intimider en quelque sorte son ex-mari. On peut tout aussi bien imaginer qu'elle leur a donné une mission qui consistait effectivement à se débarrasser de lui. Voilà.
Oui, c'est ça. Alors, en tout cas, elle dit que c'était plutôt pour lui faire peur, c'est ça, hein,
c'est une espèce
d'opération d'intimidation avec quelqu'un qui pourrait diffuser des photos, ou bien parce que tout simplement ils sont très très fâchés. Qu'avait dit Jean-François Ornano au premier procès? Lui, il a dit « nous avions été mandatés pour tuer » ou pas du tout?
Alors, a priori, je ne sais pas s'il le dit au premier procès auquel je n'ai pas assisté. Ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, effectivement, alors qu'il a décidé pendant la procédure d'assumer la responsabilité, il finit par la reporter sur sa compagne, en tout cas celle qui est décédée, qui n'est plus là.
Et encore un petit mot quand même. Jean-François Ornano, il va être témoin à ce procès. Alors certes, il n'est pas dans le box des accusés, il va être témoin, ce qui change tout d'ailleurs, parce qu'il faut le savoir, en procédure pénale, il peut mentir. Lorsqu'on est témoin, on n'est pas censé dire toute la vérité, je crois.
Alors, ça dépend de sa qualité de témoin. En principe, il prête serment quand même, de dire
la vérité. Il prête serment.
Oui, tout à fait. Maintenant, dans cette situation, je ne sais pas si il a intérêt de faire, en tout cas, des révélations qui le mettraient en situation difficile, puisque on pourrait toujours avoir, même si sa condamnation est difficile, et définitive, une révision du procès, c'est possible ça.
En tout cas, vous allez suivre ce procès.
Tout à fait. Tout à fait. J'y serai.
On a fait. Absolument. Merci beaucoup, Josué Jambard, du journal Ouest France. Et puis, merci, maître Sylvie Novakovic, d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime. L'affaire Frédéric Guittard. Son épouse est-elle coupable de cet assassinat? Le procès, un appel va le dire. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation. Et puis, un grand merci à vous toutes et tous d'avoir partagé cette heure du crime raccourcie ce soir, car il y a du football sur RTL.
RTL, au travail,
sur la route,
dans les transports,
dans votre jardin
et où que vous soyez.
Téléchargez dès maintenant et gratuitement la nouvelle application RTL.
RTL, toujours avec vous.